Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Science. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'astronomie. Vous avez sûrement entendu parler d'InSight, sans savoir réellement ce que c'était. InSight, c'est une sonde pour écouter les profondeurs de Mars. Le 26 novembre dernier, la sonde américaine InSight a atterri avec succès sur la planète rouge. La NASA a confié à des scientifiques français l'un des instruments de la sonde spatiale. Mais quel est l'objectif d'InSight ? Écouter battre le cœur de Mars en réalisant des mesures géographiques à sa surface pour mieux comprendre l'intérieur encore méconnu de la planète. De nombreuses sondes ont déjà été envoyées sur Mars, mais l'intérieur de la planète reste encore partiellement mystérieuse. Pour en savoir plus, des scientifiques veulent étudier l'évolution de la structure interne de la planète grâce à plusieurs instruments de haute technologie. Si la surface de Mars est bien connue, comment savoir plus précisément ce qu'il se passe dans son sous-sol ? C'est l'objectif de la sonde spatiale InSight. Comment connaître l'épaisseur de la surface rocheuse et surtout ce qu'il y a en dessous ? Il y a une activité sismique ? Le noyau de la planète Mars est-il liquide, comme sur la Terre ? InSight est un bijou de technologie. Pour prendre le pouls de la planète Mars, la sonde InSight est constituée de trois instruments principaux. Le premier est un capteur nommé HP3 pour Heat Flow and Physical Properties Package. A pour mission de mesurer les flux de chaleur internes de la planète. Après avoir réalisé un forage de 5 mètres de profondeur, une sonde thermique relèvera la température dans le sous-sol, donnant ainsi des indices précieux sur la chaleur qui provient du noyau martien. Le second instrument s'appelle RISE. Pour Rotation and Interior Structure Experiment. C'est un système de communication qui va mesurer si la planète Mars fait de petits mouvements par rapport à son axe de rotation. Si cette expérience de précision est positive, cela montrerait que l'intérieur de la planète comporte deux parties, une liquide et une solide. Écoutez le cœur martien. Enfin, InSight comporte un instrument au doux nom de SEIS. Ce qui signifie Seismic Experiment for Interior Structure. Cet équipement de haute technologie a été fabriqué partiellement par le CNES et l'Institut de Physique du Globe de Paris, qui se sont associés à d'autres partenaires européens. Le SEIS est un sismomètre en forme de dôme, dont le poids atteint 3 kg. Il est équipé de 3 pendules sophistiquées et de capteurs miniaturisés, qui seront capables de détecter une large gamme de vibrations à la surface et dans les profondeurs de Mars. Une fois posé à la surface du sol, SEIS sera recouvert par une sorte de coque. Ce dôme isolant le protégera de toutes les poussières martiennes et des plus forts écarts de température que l'appareil pourra subir à la surface. Toute activité tectonique ou tout impact de météorites sur Mars seront ainsi détectés par le sismomètre. Les grandes quantités d'informations par SEIS seront stockées dans l'ordinateur de bord qui transmettra une partie des informations recueillies. Ce type de mesure nécessite en effet des enregistrements continus, car on ne peut pas prévoir les séismes. Les scientifiques choisiront d'envoyer à la Terre des enregistrements détaillés, correspondant à un phénomène intéressant qui aura été repéré. La sonde InSight est également équipée de plusieurs caméras qui prendront des images du déploiement des instruments et des environs du site d'atterrissage. Une station météorologique avec un baromètre, un anémomètre et un thermomètre donnera des mesures complémentaires pour optimiser la mise en œuvre et l'interprétation des mesures. Si le vent martien se lève, il est important de le savoir pour ne pas que le sismomètre croie à une vibration liée à un tremblement du sol. SEIS a parcouru 7 mois de voyage, soit 205 jours de voyage, ce qui est énorme. Mais c'est sans compter que Mars est loin de la Terre, à exactement 485 millions de kilomètres. Retour 7 mois en arrière en Floride. Le lancement d'InSight par la fusée Atlas V s'est bien déroulé le 5 mai 2018 à un peu plus de 4 heures du matin en plein brouillard. 1h33 après son décollage, InSight s'est séparé de la fusée et a pris direction de Mars. Pour rejoindre la planète rouge qui se trouvait à 121 millions de kilomètres de la Terre au moment du lancement, la sonde aura parcouru plus de 485 millions de kilomètres. Après 205 jours de voyage et quelques corrections mineures de trajectoire, l'arrivée en orbite martienne a eu lieu le 26 novembre dernier. C'est à ce moment que se sont séparés la sonde et l'étage dit de croisière, qui servait uniquement pour le transit vers Mars. Atterrissage réussi. Toutes ces opérations qui se sont déroulées avec succès ont été suivies par les signaux transmis directement par InSight, ainsi que par des observations faites depuis d'autres instruments présents autour de Mars, qui ont envoyé leurs données aux ingénieurs sur Terre. InSight va donc pouvoir commencer sa mission confortablement installée dans la partie ouest de la planète, Elsom Planitia, à proximité de l'équateur martien. Quelques minutes après son atterrissage, elle a déployé ses panneaux solaires et a commencé à recharger ses batteries. Un bras articulé se chargera ensuite de déposer les instruments sur le sol et de les recouvrir. La mise en place des instruments ainsi que le forage jusqu'à 5 mètres de profondeur prendront plusieurs semaines. C'est seulement par la suite qu'InSight, après quelques tests, pourra fonctionner pleinement dans les sables de Mars pour 2 années de mesure. Merci à tous. Rendez-vous dans 2 ans.
Bonjour, je m'appelle Marwan.
Bonjour, je m'appelle Laila.
Et maintenant, nous allons vous parler des inégalités entre les classes sociales en Égypte. Premièrement, nous allons définir ce qu'est une inégalité et ce qu'est une classe sociale. Une inégalité, c'est une différence qui procure un avantage pour certains, un désavantage pour d'autres et qui est à l'origine des hiérarchies.
La classe sociale est une notion sociologique qui permet de déterminer un ensemble vaste d'individus partageant certains critères liés à la position sociale, comme les revenus et la profession.
Maintenant, nous allons nous intéresser à la pauvreté en Égypte et quand une famille ou un ménage est considéré comme pauvre. Le seuil de pauvreté, un revenu minimal en dessous duquel une famille est considérée comme pauvre.
Le pourcentage d'Égyptiens qui vivent sous le seuil de pauvreté est passé de 16,7% en 2000 à 27,8% des 90 millions d'habitants en 2015. 35% de la population est pauvre. Les pauvres considèrent que maintenant, les fruits sont un produit de luxe, selon le témoignage de Madame Atta, dont nous reparlerons plus tard.
Maintenant, nous allons nous intéresser aux riches et à leurs privilèges. Selon le modèle de calcul de Thomas Piketty, un économiste français très réputé dans le monde entier, la tranche de la population la plus riche au Moyen-Orient, incluant l'Égypte, s'accapare 55% des revenus contre 48% aux États-Unis, 36% en Europe et 55% en Afrique du Sud.
Les 10% les plus riches bénéficient de 60% des richesses de la région. Et en plus, 1% des plus riches s'emparent du quart des richesses.
Quatrièmement, nous allons vous présenter les classes moyennes.
Il y a une minorité qui est considérée comme classe moyenne, alors que normalement, dans la majorité des pays, la classe moyenne est majoritaire dans la société. Et dans les pays étrangers, les classes les plus basses ainsi que les plus hautes sont minoritaires. Maintenant, nous allons vous présenter les inégalités en Égypte.
En Égypte, il existe 2 types d'inégalités. Le premier type d'inégalité, c'est l'inégalité du revenu, où les revenus sont différents selon les classes sociales. Le deuxième type d'inégalité est celui des opportunités. Les riches peuvent offrir et avoir accès à des meilleurs services, comme par exemple l'éducation. Les 2 inégalités sont liées. Les causes des inégalités et la hausse de la population qui elle-même entraîne du chômage et de la pauvreté.
Nous allons maintenant vous présenter un exemple d'éducation inégalitaire en Égypte. Les écoles publiques sont très chargées. Les classes contiennent environ 150 élèves dans une salle prévue pour 40, d'après l'Ahram Hebdo. Les riches ont accès à de meilleures écoles où les classes contiennent environ 20 élèves. Les pauvres apprennent par cœur au détriment de la réflexion à cause des conditions déplorables des salles de classe. Elles ne sont pas aérées, les filles et les garçons sont séparés, même ceux qui sont défavorisés essaient de mettre leurs enfants dans les écoles privées. Les cours particuliers sont très présentes et les riches ne doivent pas prendre des cours particuliers puisqu'ils ont accès à tous les aspects positifs de l'éducation. Les pauvres paient des fois 2000 livres par mois. D'après Madame Atta, pour les cours particuliers, elle dit que c'est un gros morceau de notre budget, mais je n'ai pas d'autre choix si je veux que mes enfants apprennent plus de choses.
L'Égypte a fini dernière du classement en termes d'éducation primaire selon le rapport global en fonction de la compétitivité de l'éducation et de la didactique du Forum économique mondial. En queue de peloton, derrière 147 pays, autres pays. Ces inégalités ont commencé lorsque Abdel Nasser a rendu l'éducation gratuite. Ce fut l'un des piliers de grandes réformes socialistes des années 50 et 60. Au début, tout allait bien, mais l'éducation, pendant la période du président Moubarak, a été rattrapée par la bureaucratie et la corruption, qui sont les maux rampant le pays. Le système est paralysé par ses décisions centralisées, ses programmes vieillots, moralisateurs et son personnel sous-payé et sous-diplômé. L'éducation est un exemple parmi tant d'autres de ces inégalités qui persistent toujours en Égypte.
Nous vous remercions pour votre attention.
Bonjour, je m'appelle Maëlouen et je vais vous présenter la maladie qui se nomme la bilharziose. La bilharziose est communément appelée schistosomiase par les scientifiques. C'est une maladie parasitaire qui sévit dans les régions tropicales et subtropicales. Elle est principalement en Égypte, en Afrique et plus particulièrement en Égypte. Elle est provoquée par des vers hématophages dangereux qui peuvent causer une infection sévère et de lourds handicaps. Elle constitue un enjeu public d'envergure mondiale puisqu'il s'agit de la deuxième épidémie parasitaire. Elle est constituée de deux espèces de vers qui sont responsables de la plupart des transmissions à l'homme de la bilharziose. La première est la schistosomiase haematobium et la deuxième est la schistosomia monsoni. Les architectes peuvent dire que la bilharziose date de la 20e dynastie, mais nous n'avons pas de date précise. Cette maladie est logée dans le Nil, mais aussi dans les gastéropodes d'eau douce. Au Xe siècle, un fameux médecin égyptien nommé Ibn Raywan a pu identifier des œufs dans les restes viscéraux de certaines momies et en 1852, Théodore Maximilien Bilharz trouva un autre spécimen nommé Dystodium haematobium, puis il donna son nom à cette maladie. La bilharziose est présentée en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, mais le continent africain concentre 80 à 90% des cas. La bilharziose tue entre 20 000 et 200 000 personnes chaque année. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle touche plus de 60 millions de personnes en 2014, mais ce traitement ne clôt pas tout pour autant le cycle car il ne tue pas tous les vers et donc il risque de réinfection. L'Organisation mondiale de la santé estime alors de nombre de personnes nécessitant un traitement préventif à plus de 250 millions. La bilharziose est considérée comme une maladie tropicale négligée, c'est-à-dire une maladie répandue, confinée aux régions en développement. Savez-vous que dans plusieurs cas, la bilharziose sont survenues en Europe depuis 2011, en particulier en Corse, et faisant craindre l'émergence de cette parasitose en Europe. Les premiers signes d'une infection sont des éruptions cutanées suivi de quelques semaines plus tard par de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires. Elles pénètrent dans l'organisme humain par la peau. Elles sont drainées par le sang jusqu'à l'intestin et la vessie, où elles produisent des œufs qui vont endommager le tissu, qui va provoquer la réaction inflammatoire de l'organisme. Les symptômes principaux et cliniques sont, pour la schistosomie intestinale, la diarrhée, le sang dans les selles et les douleurs abdominales. Dans la forme chronique, les complications sont l'augmentation du volume du foie et de la rate. Pour la schistosomiase urogénitale, il y a présence de sang dans les urines, donc pour les hommes et les femmes. Elle peut entraîner des lésions au niveau de la vessie, l'urètre et les reins. On peut dire qu'il y aura forcément une amélioration envers le traitement dans le futur. Mais cette maladie se propagera sur toute la Terre si nous ne faisons rien pour l'arrêter. Merci de m'avoir écouté.
Bonjour, je m'appelle Sophie.
Bonjour, je m'appelle Mathilde.
Aujourd'hui, on va vous parler de l'alcool dans les écoles. Avant, l'alcool était autorisé dans les écoles jusqu'en 1956, mais maintenant, il est interdit, sauf aux plus de 18 ans. Les lois d'alcool, le 21 juillet 2009, il a été interdit de vendre l'alcool aux mineurs. Ensuite, l'article 12 interdit l'influence d'alcool aux mineurs.
Donc maintenant, je vais vous parler de l'alcool dans les lycées et collèges. Donc déjà, d'après une enquête, à 15 ans, un adolescent sur 3 a connu une situation d'ivresse. Donc ça, c'est d'après le Figaro. Et d'après l'ICERN, 77,9% des 12-19 ans ont bu au moins une fois dans leur vie. Et parmi ces 77,9%, 21,4% sont des consommateurs quotidiens, c'est-à-dire tous les jours. Une enquête montre également qu'il y a plus de garçons que de filles. Et pour revenir aux 77,9%, 39,2% boivent de l'alcool fort, et dont 37% de filles et 41,5% de garçons. Et pour rester général, en Europe, 63 000 Européens de 15 à 19 ans sont morts à cause de l'alcool. Et pour en revenir, du coup, pour être plus centré sur les écoles, les administrations scolaires ne réagissent pas aux élèves alcoolisés en cours. Donc, c'est-à-dire qu'ils banalisent la consommation d'alcool entre les cours. Ils ne prennent pas conscience des élèves ivres morts et portent peu d'intérêt et ne sanctionnent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prévenir les parents ou les tuteurs légaux. Et pour finir, pour parler des parents, d'après le journal Libération, 83% des parents portent une inquiétude sur la consommation d'alcool chez les jeunes. D'après le Figaro, une étude a interrogé des parents et ils devaient comparer leur âge quand ils buvaient de l'alcool à maintenant ceux de leurs enfants. 14% pensent que la consommation d'alcool a augmenté, 58% pensent que la consommation est la même et 27% pensent que la consommation a diminué. On peut voir que beaucoup de parents, plus de la moitié, pensent que la consommation est toujours la même. Et 47% des parents pensent que la consommation d'alcool chez les jeunes est excessive.
Maintenant, je vais vous parler de la sponsorisation. Les grandes marques d'alcool sponsorisent les fêtes, comme Jack Daniel's, Absolut. Cela incite la consommation excessive. Puis, la direction autorise la sponsorisation des fêtes d'étudiants, comme la BDE, c'est le bureau des élèves, incite sur l'organisation des fêtes, ce qui influence la participation, ce qui l'influence. Puis, on a les conséquences. Pendant les fêtes, si on boit beaucoup, cela peut provoquer le coma. Et ensuite, la conduite, elle est dangereuse parce qu'on peut avoir des accidents. Et il peut y avoir aussi des échecs scolaires comme le redoublement ou la défaillance des notes.
Donc, en tout, pour conclure, la législation est très stricte. Donc, pour les majeurs qui sont pris en flagrant délit de vente d'alcool ou d'influence, c'est la prison ou des amendes très très élevées, au moins 5000 euros. Et pour les mineurs, c'est soit les amendes pour de grosses amendes pour leurs parents, ou les maisons de correction peuvent être envisagées pour des récidives. Donc c'était le sujet sur la consommation d'alcool.
Merci pour votre écoute.
Merci pour votre écoute.